Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Ouvrons notre Bible et je vous propose une lecture, donc ensuite un commentaire dans le deuxième livre des Rois au chapitre 5. Alors, deuxième livre des Rois, c'est dans l'Ancien Testament, forcément. Chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 19. Une histoire assez étonnante, mais qui est tellement courante dans le monde d'hier et d'aujourd'hui. Alors, voilà. Élisée lui dit, donc à Naaman, je vous expliquais dans quelques instants, « Va en paix ». Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va-t-il bien ?» Il répondit « Tout va bien. » « Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consens à prendre deux talents. » Il le pressa et il serra deux talents d'argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître, Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent. » Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Voilà pour la situation de notre méditation. Je pense que vous connaissez naturellement cette aventure, l'aventure de Géasi, parce que il y a certainement à porter une réflexion sur l'attitude d'un homme qui se sert du nom de Dieu, l'Éternel est vivant, et puis un homme qui est à proximité d'un homme remarquable, tel que le prophète Élisée, et qui quelque part, eh bien, va se permettre toutes les libertés de mentir et de voler. Et je pense que c'était déjà suffisant dans la vie de cet homme, donc de Géasi. Alors je rappelle les protagonismes de l'histoire. Il y a Élisée, qui est le prophète de Dieu, ce grand homme que nous connaissons dans la Bible, l'homme du miracle, l'homme des prodiges. Et quelle importance il tient dans l'histoire, finalement, eh bien, à cette époque, dans l'histoire d'Israël. Il y a un homme, un autre, qui s'appelle Naaman. Et lui, c'est aussi un grand personnage, mais d'un autre genre. Il est général de l'armée syrienne, général en chef. Et il nous est raconté un peu plus avant qu'il avait la faveur de son maître, le roi de Syrie. C'était un homme considérable, un homme qui avait remporté des victoires dans les batailles, et nous allons en parler quelque peu. Subitement, cet homme va tomber malade. il va être frappé par la lèpre. Et imaginez-vous la catastrophe pour un homme qui est au sommet de l'État, qui est un personnage remarquable et de distinction, et qui va devoir confronter avec la maladie, et pas n'importe laquelle, la lèpre, devoir tout perdre, à cause finalement eh bien, de ce qui lui arrive. Quelle humiliation. Et puis le troisième personnage, c'est Géasi. Alors on va parler particulièrement de lui, parce que il y a quand même dans son attitude, eh bien certainement quelque chose à retirer, et peut-être un avertissement, en tous les cas une mise en garde, surtout dans les temps qui sont les nôtres, où, comme toujours je voudrais croire, mais le mensonge, et puis l'amour de l'argent, la convoitise, la cupidité, eh bien c'est quelque chose de courant aujourd'hui où on est prêt à tout. Alors Géasi, il nous est dit qu'il est tout simplement serviteur du prophète. On pourrait dire même, il est serviteur du prophète Élisée, mais on va ajouter cela si vous voulez bien, il est disciple. Il sert le prophète, mais partout où le prophète va, il y va. Tout ce que le prophète dit, il l'entend. Il a certainement à son actif, Géasi, eh bien, beaucoup de choses à raconter, des miracles qu'il a vus, des prodiges. Donc c'est pas un ignorant, Géasi. C'est quelqu'un qui suit le prophète Élisée et qui est certainement un privilégié, nous pourrions dire, de vivre dans un environnement et avec un environnement d'un tel homme, tel que le prophète Élisée. S'il y a une leçon, et je voudrais la donner tout de suite, une leçon morale à tirer de tout cela, c'est ce qui est malheureusement propre à la nature humaine, qui ne doit pas être naturellement, eh bien, le propre des chrétiens, j'espère en tous les cas, mais cette propension à mentir et à la cupidité. C'est-à-dire, mentir, c'est en effet en quelque sorte travestir la vérité pour arriver à certains buts. Et puis la cupidité, c'est l'amour immodéré de l'argent. Ça va avec naturellement l'avarice et puis toutes ces choses hein, qui ressemblent. Dans l'histoire précédente que je n'ai pas lue, c'est l'histoire justement de la maladie de Naaman qui eh bien, est décrite. On l'a dit et je le répète, Naaman, subitement, est frappé par la lèpre. C'est un discrédit parce que un lépreux, eh bien, c'est un homme qui va être mis au banc de la société, qui va devoir eh bien, s'arrêter dans ses activités, et en raison naturellement des risques de contagion et de toutes sortes de choses, c'est un homme qui est banni. Donc, une si belle situation qui s'effondre, tout simplement à cause de ce qui le frappe, donc la lèpre. Et nous voyons que dans ce récit précédent, eh bien, il nous est rapporté qu'il est guéri miraculeusement à travers une parole du prophète. Le prophète va lui dire, eh bien, tu vas aller te laver, te tremper 7 fois dans les joues du Jourdain, et ta chair va redevenir pure. Tu vas être, eh bien, guéri de ta lèpre. Alors, pendant un certain temps, monsieur le général, lui, va le prendre de haut, il va se courroucer, il va se mettre en colère, il va dire, mais pour qui il me prend ce prophète-là? On m'a dit qu'il guérissait, mais pour qui il se prend? Et il me traite comme le plus vulgaire des hommes. Alors il va résister, il va véritablement, eh bien, là, refuser pendant un certain temps, mais il a autour de lui Naaman des soldats qui sont là avec lui, qui l'accompagnent, et qui vont lui dire, mais s'il t'avait demandé une chose difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Et le bon sens va lui revenir, il va dire, bon, et je vais aller me tremper dans le Jourdain. Et quand il est sorti du Jourdain, à la 7e fois, il s'est aperçu que sa lèpre avait complètement disparu, et nous pouvons dire que là, il a fait la démonstration, eh bien, de foi, parce qu'il a cru dans ce que le prophète lui a dit, « Va, lave-toi, et tu seras pur. » Et il a fait naturellement, eh bien, un acte d'obéissance, parce que ce sont les bases et les fondements par lesquels, eh bien, Dieu agit pour nous, lorsque nous croyons à sa parole, et que nous obéissons à sa parole. Donc, eh bien, Naaman est guéri totalement de sa lèpre. Mais il y a une chose qui est à remarquer, c'est que ce qui frappe le général Naaman, après qu'il ait été guéri, c'est le désintéressement du prophète Élisée qui ne demande rien en contrepartie. Naaman avait certainement l'habitude, riche qu'il était, dans sa position, eh bien, d'acheter un petit peu les gens, vous comprenez? Ou si ce n'était pas acheter les gens, eh bien, il savait que il fallait toujours donner quelque chose pour en remerciement, ce qui est peut-être normal. Mais il va être un petit peu estourbi parce qu'il va dire, mais cet homme, ce prophète d'Israël, il me guérit de mon problème numéro un parce qu'autrement je vais mourir. Voilà que je recouvre la santé parce que il m'a dit une parole de Dieu et cette parole de Dieu s'est accomplie. Alors à ce moment-là, eh bien, il s'étonne, il se dit, mais il ne demande rien en contrepartie. Et il est en train de penser, il se dit, mais voici un homme de Dieu dont la parole est pleinement suffisante pour guérir un autre homme. Ça, c'est quelque chose, ça a dû certainement l'époustoufler, parce que quand on paie un service qui a un caractère humain, où les gens bien peuvent faire les choses, mais là, l'homme ne pouvait rien faire, personne ne pouvait rien faire, même pas le prophète pouvait faire quelque chose, il n'y avait que Dieu qui pouvait honorer cette parole. Si elle était accompagnée de foi et d'obéissance, eh bien, le malade serait guéri. Alors, Naaman est complètement désabusé parce qu'il se dit, bien, voilà, moi, je voudrais bien lui donner quelque chose. Et à ce moment-là, on pourrait dire de fil en aiguille, Naaman va découvrir qu'il y a un bien beaucoup plus précieux que l'or et l'argent. C'est sa découverte. Comment peut-on être guéri uniquement par la foi sans, eh bien, acheter quelque chose ou donner une contrepartie? Les choses sont ainsi. Quand Naaman va proposer une petite fortune, eh bien, Élisée va refuser tout net de s'enrichir en raison du pouvoir miraculeux que Dieu lui a donné. Il va dire, moi je ne veux pas. Je ne veux rien recevoir de ta main. Et vous savez, ça nous ramène à tous ces personnages qui apparaissent de temps à autre, des astres, vous savez, qui brillent un instant et qui disparaissent dans les ténèbres, parce que ce sont des hommes de ténèbres. Ça vous rappelle naturellement dans le livre des Actes, eh bien, ce fameux Simon le magicien qui voulait soudoyer Pierre et Jean, également Philippe, en leur disant, si vous me donnez le Saint-Esprit de Dieu, alors je vous donnerai de l'argent, et comme ça, moi aussi, je pourrai imposer les mains aux gens. Et nous voyons la manière dont les apôtres ont répondu à Simon le magicien en disant, mais tu n'y es pas, tu es animé d'un fiel amer. Et ça faisait partie justement, eh bien, en quelque sorte, d'un autre Géasi. Vous vous souvenez également de Balaam, le prophète, qui était un prophète païen, mais dont Dieu avait chargé, eh bien, de bénir Israël avant qu'il rentre dans le pays de Canaan. Et Balaam, c'était aussi un homme vénal. Il se dit, bien, puisque j'ai une mission divine à accomplir, eh bien, cette mission ne sera pas gratuite. Et on voit quelle avidité il a pour essayer d'associer, eh bien, ce que Dieu lui demande avec le gain de l'argent, avec des trésors, avec toutes sortes de choses. Parce que c'était des hommes, le premier Géasi, Simon le magicien, Balaam, et il y en a d'autres dans l'histoire, qui étaient animés tout simplement par... Ils étaient assoiffés de pouvoir et d'enrichissement. Et ils se disaient, bien, j'ai quelque chose, il faut que ça me rapporte de l'argent. D'une manière ou d'une autre, quel que soit le procédé qu'ils utilisent, tout cela est cousu de mensonges pour arriver à leur fin, pour obtenir et s'enrichir. Ce que je voudrais dire, c'est que il n'y a qu'une richesse que nous pouvons obtenir de Dieu. C'est pas celle que nous pensons. Et malheureusement, est-ce qu'il faut que j'ouvre la parenthèse pour le dire? Mais quand on voit le christianisme, quelquefois dans sa généralité, dans son histoire, 2000 ans d'histoire, ce christianisme qui a complètement évacué le sens de la modestie et de l'humilité, je ne dirais pas pauvreté, mais tout simplement, eh bien, de vivre avec ce que nous avons. Ce christianisme qui a dépouillé des millions et des millions d'hommes, de femmes à travers les âges pour se constituer une fortune colossale qui subsiste encore aujourd'hui. Ça, c'est une réflexion. Et vous savez, s'il y a quelque chose qui dissuade les gens, le commun des gens autour de nous, c'est un peu la richesse, un peu cette mise en avant, un peu beaucoup, de ces pompes religieuses, de ce faste religieux, à travers tout ce qui peut nous être présenté dans les grands messes, dans les cérémonies, dans toutes ces solennités, où là, eh bien, ça n'aspire vraiment pas. Tout simplement, eh bien, le message de l'Évangile que Jésus nous a donné, et la personne de Jésus lui-même, où il nous est dit qu'il n'avait pas, le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Et nous voyons que plus l'Église, à travers les âges, s'est enrichie, plus elle a perdu la foi pour se reposer sur ses richesses. Quitte à mandater des armées pour faire la guerre à d'autres pays, certainement chrétiens, pour s'emparer des richesses de la conquête. Alors, ceci, c'était tout simplement une parenthèse. Assoiffé de pouvoir et d'enrichissement. Certainement, dans un élan de sincère reconnaissance, Naaman, qui fait l'expérience de la guérison divine, est prêt à tout donner à son bienfaiteur. Et si vous avez encore votre Bible ouverte, nous allons lire un petit texte juste au-dessus, au chapitre 5, donc le même chapitre, et au verset 15, il est dit ceci. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, donc vers Élisée, avec toute sa suite. Après sa guérison, il fut arrivé, il se présenta devant lui et lui dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu, écoutez bien, qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » C'est la conversion de Naaman que nous avons là. Enfin, en tous les cas, la profession de foi. « Et maintenant, dira-t-il, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel est, dont je suis le serviteur et vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Voilà. Donc, on voit que la dignité et la distinction de cet homme de Dieu qui s'appelle Élisée, qui dit, « Mais moi, ce que j'ai reçu, je le donne. Je ne veux pas te le faire payer. » Alors ça, nous l'avons souligné tout à l'heure, notre général en chef de l'armée de Syrie est complètement époustouflé parce que c'est pas comme ça qu'il avait l'habitude de voir les choses. Et il va se passer tout un événement dans la vie de Naaman. Alors au contact du prophète de Dieu, petit à petit par ce témoignage, l'âme de Naaman s'ouvre aux perspectives spirituelles. Il va croire. Il a déjà cru pour sa guérison, mais il va le confesser. Il dit « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Ce qui voulait dire qu'il avait l'habitude des dieux de Syrie, des dieux païens, des temples, de l'idolâtrie, etc., etc. Et il va confesser, comme d'autres le feront d'ailleurs, dans des monarques et des hommes éminents dans l'histoire de l'Antiquité, eh bien, biblique, eh bien, il nous est dit « Mais il n'y a que Dieu. Maintenant, je reconnais que c'est ton Dieu qui est le Dieu des dieux, qui est le Dieu créateur et qui est le Dieu sauveur et qui est le Dieu qui guérit. » Donc, c'est une belle confession de foi. Son âme s'ouvre à ce moment-là. Et puis, il va faire cette autre expérience. Il va libérer son esprit de l'esclavage de l'orgueil. Parce que il a pris une bonne leçon quand le prophète lui a dit « De la part de Dieu, va te tremper 7 fois dans le Jourdain. » Il s'est mis en colère, il était en fureur. Il était prêt à repartir dans son pays en disant « Mais on me traite comme n'importe qui. » Donc là, il va se libérer de son orgueil. Et il va faire l'expérience de la libération de son égoïsme. Il est prêt à tout donner pour le prix de sa guérison. La première leçon que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est que la Bible le souligne à plusieurs reprises. Jésus l'enseigne dans le Sermon sur la montagne et dans bien d'autres textes. Il existe bien un idéal qui est plus fort que l'amour des richesses matérielles. Jésus le fera comprendre en son temps. Il dira, mais on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soit on sert Dieu ou on sert Mammon, c'est-à-dire le Dieu de l'argent, le Dieu des richesses. Ce faux Dieu. Et voilà pour Naaman. Ça, c'est son histoire qui nous est rapportée avant de parler de Géasi. J'ai regardé un peu, je me suis aperçu que le nom Naaman Je ne sais pas de trop quelle origine il s'agit, mais signifie agréable. Naaman, ça veut dire agréable, ce qu'il n'était pas auparavant. Hein? Il portait, nous pourrions dire, un nom prédestiné, et quand on connaît la vie qu'il avait, hein, c'était un guerrier, c'était un homme vaniteux, orgueilleux, mais pourtant, il va rentrer dans la caractéristique de son nom, à partir du moment où il aura fait une expérience avec Dieu, il va porter le nom d'agréable. Auparavant, c'était le contraire. On retrouve la même chose chez l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, vous savez. Hein? Paul, qui était un homme qui se disait être un grand dans la foi d'Israël, eh bien, il va porter un nom. Après s'être appelé Saul de Tarse, il va finir par s'appeler Paul. Et en grec, Paul, ça veut dire petit. Parce que pour devenir grand, faut d'abord être petit. C'est ce qui est arrivé aussi à Naaman. Pour nous dire ceci, c'est que l'homme est libre de choisir entre le bien et le mal. Parce que Dieu lui a donné une conscience. Il est capable et il est libre de choisir entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il est capable de choisir entre les vraies et les fausses valeurs. Faut-il que l'Esprit de Dieu vienne l'éclairer. Et avoir un cœur tourné vers des gains de la terre, c'est une chose. Ou alors, c'est son contraire. C'est avoir un cœur qui est tourné vers l'espérance d'un trésor éternel dans le ciel. C'est la terre ou le ciel. C'est pas les deux. C'était toute l'ambiguïté de ce jeune homme riche qui est venu et qui a couru pour se jeter aux pieds de Jésus. Vous connaissez l'histoire. Qui dira, mais j'ai observé tous les commandements de Dieu depuis ma jeunesse. Mais nous voyons que c'est un garçon qui a le cœur complètement déchiré parce qu'il ne peut pas prendre parti. Il se plaît dans la présence de Jésus, il se plaît à écouter Jésus, et ça, c'est véritablement, eh bien, ce qu'il a caressé, cet idéal de conscience, cet idéal moral, cet idéal spirituel. Puis quand Jésus lui dit, mais il te manque une chose, c'est que ton cœur, il est rempli, finalement, de cet attachement à ses richesses, parce que tu es un homme riche. Alors il ne peut pas décider à ce moment-là. Et il va repartir tout triste parce que il ne sait pas faire la différence entre ce qu'il y a dans le ciel et ce qu'il y a sur la terre. Et il y a beaucoup de gens qui sont peut-être semblables à ces personnages. Ils sont dans un ennui. Ils sont dans un embarras de décision. Ils sont dans l'incapacité de dire, eh bien, moi, je préfère les choses d'en haut. D'autres diront, eh bien, il n'y a que la terre qui compte et parce qu'on ne sait pas ce qui se passe au ciel. Les chrétiens ont tranché la question. Les véritables croyants, parce que nous marchons par la foi. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans le ciel. Mais la parole nous dit suffisamment de choses pour nous dire qu'il y a des trésors, qu'il y a des palais, qu'il y a des choses extraordinaires. Alors c'est une vue de l'esprit, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Qu'il y a le bonheur, qu'il y a la paix, qu'il y a la joie, il y a toutes ces valeurs qui sont pourtant au fond du cœur de tous les hommes, mais dont ils ne sont pas prêts à faire l'échange entre leur richesse ou leur misère, leur misérable richesse sur terre, avec ce qu'il leur est promis. Ce sont des choses à venir, il faut les croire. J'en arrive au deuxième personnage. On a parlé d'Élisée, on a parlé de Naaman, et à côté d'Élisée, l'homme de Dieu, je souligne l'homme de Dieu parce que c'est un homme de pouvoir et de puissance spirituelle, il y a Géasi. Alors vous avez peut-être une petite idée, maintenant vous l'avez compris, hein, vous l'avez lu plusieurs fois, quel comportement Géasi ? Et vous savez que Géasi, ça signifie, son nom veut dire tout simplement vallée de vision. Vallée, comme une vallée de vision. Et là, c'est aussi quelque part quelque chose qui peut nous interpeller, parce que c'est un véritable paradoxe, avoir été si proche d'un homme tel qu'Élisée, un homme de foi et un homme de Dieu, et de porter un nom au sens péjoratif, parce que ça le caractérise bien, vallée de vision. Et nous savons tous que si nous voulons avoir une vision, faut pas aller sur la vallée, faut pas descendre dans la vallée, faut monter sur la montagne. Parce qu'il peut pas y avoir de perspective dans une vallée. Une vallée, c'est quelque chose qui est étroit, quelque chose qui est refermé, qui est resserré. Et son nom, j'ai trouvé ça, je regarde un petit peu, je cherche. C'est très intéressant, hein, de faire des petites études bibliques, c'est tout simple. Mais je veux dire que il est vraiment la caractéristique de ce qu'il est. Il porte un nom qui le caractérise. Nous, nos noms, que nous avons, nos prénoms, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Mais chez les Juifs, il y a une signification, vallée de vision, parce qu'on sait très bien que les vallées, c'est en bas, et sa vision était certainement illusoire. Il faisait des idées, vous comprenez. Elle était vénale, une vision intro, une vision égo. Tout pour lui, se disait le jour où je pouvoir, eh bien, réussir dans les affaires en me servant du nom de Dieu, alors qu'il y a une opportunité qui se présente, quelqu'un était prêt à nous donner sa fortune, on va quand même pas le laisser partir comme ça. Je vais m'en mettre plein les poches. C'est certainement ce qu'il se disait. Ah, c'est un état d'esprit, cela. Et vous savez, c'est un état d'esprit qui n'est pas celui des croyants et qui n'est certainement pas celui des chrétiens. Mais, faut bien le reconnaître, c'est quand même l'état d'esprit qui prévaut dans notre monde d'aujourd'hui, hein. L'argent, la gloire, la puissance, le pouvoir, un nom, la promotion, tout ce que vous voudrez, hein. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi, hein. C'est qu'ils ont ils n'ont aucune vision de ce que peut être finalement, eh bien, les possibilités infinies de Dieu, qui peut nous donner au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous lui demandons, des trésors et des richesses dont nous ne pouvons même pas soupçonner la grandeur, l'importance et la valeur. Ça, c'est Géasi. Tel est le personnage dans lequel nous allons dire quelques mots. Vous avez remarqué, il nous est présenté dans notre texte comme le serviteur de confiance du prophète. Oui, il nous est dit dans notre texte, tout simplement, que je retrouve dans cette phrase, « Serviteur d'Élisée, homme de Dieu, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. » Vous comprendrez que c'est pas Géasi qui est homme de Dieu, hein. C'est le prophète qui est l'homme de Dieu. Et il aurait dû prendre une empreinte de cet homme de Dieu qui était le prophète Élisée. C'est passé sur lui sans qu'il s'aperçoive de rien, ça glissait sur lui. C'est quand même terrible, hein, des gens qui sont dans une bonne influence et qui, malgré l'influence, malgré l'atmosphère, malgré les richesses qu'ils pourraient puiser, ils restent complètement inertes et stériles. C'est l'histoire de Lot avec Abraham. Ah oui, Lot, il en fait partie de ces gens comme il regarde et il se dit « Je veux laisser mon vieil oncle Abraham sur la montagne, il n'y a rien à faire là-haut. » Ah oui, mais là, il y avait des choses à voir aussi sur la montagne. Et il dit, moi, je vais descendre dans la vallée, je vais descendre à Sodome et Gomorre. Mal lui en a pris parce que finalement, eh bien, il y a laissé toute sa richesse, il y a perdu sa femme, et il y a perdu aussi ses filles, en quelque sorte, toute sa famille. C'est terrible, hein. Alors, notre Géasi ressemble à un personnage que vous connaissez parce qu'il a une place quand même dans les évangiles. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Judas? Ouais. Judas, vous connaissez. Judas, celui que Jésus avait choisi. Je ne sais pas si Élisée avait choisi Géasi, peut-être, hein, certainement. Il n'est pas venu faire ses offres de service auprès du prophète de Dieu, hein. Il a dû venir avec moi. Tiens, va. On va faire une bonne équipe ensemble, comme Jésus avait choisi Judas. Et c'est vrai qu'il ressemble à Judas, qui était auprès de Jésus. Est-ce que vous savez comment il se caractérisait, Judas? La parole de Dieu nous dit qu'il était menteur, qu'il était avare, parce que c'est lui qui tenait la bourse des 12, hein, et qui fera des réflexions parce que on a versé du parfum d'un grand prix sur les pieds de Jésus, et il était cupide. Ouais. Ça, c'est Judas. Ça, c'est Géasi. Puis d'autres. Judas et Géasi, pourtant, ont vu de si grands miracles, et ça ne leur a pas servi à grand chose. Il est triste quelquefois que des gens aient suivi les réunions pendant un certain temps, voire même des années. Il est triste que des gens lisent la Bible sans retirer véritablement le profit moral et spirituel que ce livre donne à celui qui y attache son cœur. C'était le cas de ces deux hommes dont je viens de citer. Alors, entre un prophète puissant de Dieu intègre, entre un païen syrien étranger et ignorant qui se convertit, et un Géasi au cœur tordu qui se perd. Vous avez les trois personnages. Il y a l'homme de Dieu dans son intégrité, c'est Élisée. Il y a Naaman, cet homme qui ne sait rien, qui est tout à fait étranger à la foi de Dieu, mais qui va le découvrir et qui va se convertir, qui va faire une proclamation, une profession de foi extraordinaire. Et vous avez également un Géasi qui est là, est au pied de ce grand prophète, qui va voir des choses, et malheureusement son cœur est tellement tordu qu'il va se perdre, tout simplement. Ça, c'est le paradoxe. Vous voulez qu'on relise un petit peu simplement? Il nous est dit que cette parole, il dira donc au verset 20, voilà, il se dit en lui-même, « Mon maître a ménagé Naaman ce Syrien. » Il doit y avoir un petit peu de mépris en disant « ce Syrien, c'est un étranger. » On peut, excusez-moi, on peut le voler, on peut le plumer, si vous permettez l'expression. Hein. « En n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, l'Éternel est vivant. » Donc il se sert du nom de Dieu pour étayer son mensonge. Tout simplement. « Alors je vais courir après lui, j'en obtiendrai quelque chose. » Donc il est bien déterminé. Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre, et il va lui dire « Mais tout va bien ?» Il répondit « Mais tout va bien, naturellement, c'est bien comme ça. » Alors il va mentir effrontément, il dira « Mais mon maître, donc le prophète, il va se servir de la parole usurpée du prophète Élisée, il dira « Mais mon maître m'envoie te dire, voici il vient d'arriver. » Alors il va raconter toute une histoire de jeunes gens qui arrivent, et il va demander « Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Naaman dit « Consent à prendre deux talents. » Il est généreux, notre Naaman, parce que vous savez, quand les cœurs se convertissent, on nous a toujours dit que les bourses s'ouvrent. Ça, c'est vrai. On est prêt à tout donner pour ce que nous avons reçu de Dieu. Une guérison, ou une transformation de vie, ou une situation qui était désespérée, où nous voyons Dieu avoir agi. Alors, Naaman, il réagit comme un vrai croyant, un chrétien qui sait qu'il a reçu beaucoup, alors ben, il veut le partager, tout simplement. Alors il le pressa, il serra deux talents d'argent dans, voilà, hein, je passe là, et il nous est dit que Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, il renvoya ces gens qui partirent, puis il alla se présenter devant son maître en sifflotant, c'est moi qui le dis, hein, en disant, j'ai été faire un petit tour, voilà, j'ai été prendre l'air parce qu'il faisait chaud un peu dans la maison, imaginez-vous, non mais je suis en train un peu de forcer le trait, mais quand même, comme si rien ne s'était passé. Lui, il le sait qu'il a menti, il sait qu'il a été volé, qu'il s'est servi même de quelqu'un d'autre, du nom de quelqu'un d'autre pour raconter des messages, et un mensonge, et se donner du crédit dans son vol. Alors, il alla se présenter devant son maître, Élisée lui dit, et Élisée lui dit, « Mais d'où viens-tu ? » Vous savez, ça me fait penser, quand l'Éternel dit à Satan, vous savez, dans le livre de Job, « D'où viens-tu ? De parcourir la terre, et je viens de m'y promener. » Eh bien, Géasi, il a le même esprit que le diable. Parce que l'esprit de mensonge et l'esprit de cupidité, ça vient pas de Dieu, ça vient du diable. Tout simplement. Alors il répondit, d'une manière tout à fait distante, « Ton serviteur n'est allé ni à droite, ni à gauche, ni d'un côté, ni d'un autre. » Vous savez, on a l'habitude de dire, nous, « Et mon œil ?» Je vois pourquoi on dit ça, d'ailleurs. Ouais. Mais Élisée, c'est un homme de Dieu. Et Élisée, il n'avait pas besoin de sortir de sa maison, il n'avait pas besoin de faire une enquête ou de prendre un détective pour savoir ce qui s'était passé. L'Esprit de Dieu était avec Élisée, et quand l'Esprit de Dieu est avec un homme, en l'occurrence Élisée, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la vérité, qui met en lumière le mensonge. Tout ce qu'il peut y avoir de sordide dans le cœur de l'homme pour tromper, pour dépouiller, pour dérober, et tout ce que vous voudrez. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme, en parlant de Naaman, a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et là, il va entendre un petit peu les cloches sonner, si l'on peut dire. Il va lui dire, mais est-ce que c'est le temps? Remarquez, vous savez, si Élisée dit ça à Géasi, c'est que Géasi, je suppose, avait dû lui faire quelques petites entourloupes. Je ne sais pas, c'est pas écrit, hein. Mais il a peut-être l'habitude, peut-être que c'était pas forcément de la rectitude de cœur qu'il avait chez son serviteur, là. En tous les cas, il va le dévoiler. Mais est-ce le temps de prendre de l'argent ou de prendre des vêtements? Puis des oliviers avec cet argent, de s'acheter des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Tu veux devenir quoi? Tu veux devenir un maître? Mais si tu veux devenir un grand et un maître, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Vous savez qu'il nous est dit que tout héritage ou tout bien mal acquis ne profite jamais, hein. Oui. C'est ce qui se passe. Et la conclusion qui est donnée dans le texte, je vais le lire tout de suite, on en reparlera d'ici quelques instants. La lèpre de Naaman. Vous savez le Syrien qui a été guéri, hein, Naaman. C'est une parole qui va se réaliser. S'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. C'est dramatique. Parce que le menteur, le cupide, c'est un lépreux. C'était une véritable lèpre. Il n'y a pas à en douter. Avec, on va le voir, hein, la couleur en fait foi, là. Mais c'est pour dire que le péché, ce péché-là, de la tortuosité, du manque de droiture, de cet esprit qui est tordu, de ce mensonge, de cet esprit mensonger, eh bien, c'est une lèpre. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre, comme la neige. C'était immédiat. Vous vous souvenez de l'histoire de Marie, la sœur de Moïse? Elle, c'était pas une question d'argent ou de société, c'était la mauvaise langue. Elle avait critiqué. Elle était en train de répandre dans le camp d'Israël un venin qui montait finalement le peuple contre Moïse et contre Aaron. Non, Aaron était avec sa sœur. Oui, c'était le prêtre en plus. C'était bien, hein? Alors voilà. On a finalement, eh bien, tous ces paradoxes. Et pourtant, Jésus nous dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est beau, hein, ce qu'il dit, hein. Je ne sais pas si tout le monde a entendu cette parole dans le monde, et particulièrement dans le monde chrétien, dans le monde des églises. Je ne sais pas. Pourtant, c'est Jésus qui la donne. Géasi pose la question suivante, qu'évoque Jésus, à travers cette parole, dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 21, quand il dit ceci, je lis en substance. « Ceux qui me disent, l'Éternel est vivant, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors à ce moment-là, plusieurs me diront, « Eh bien, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ?» Notre bouche a prononcé ton nom, ça suffit. Que notre bouche soit convertie et que notre cœur reste intact comme il était auparavant naturellement. Non. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? On a fait des actes puissants, Seigneur. T'en compte, tu nous as donné des dons, on en a vraiment profité. On en a fait profiter tous ceux qui étaient possédés. Ils sont libres maintenant. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Vous savez la réponse de Jésus? Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Voilà, tout simplement. Vous savez comment ça s'appelle, ce que Jésus est en train de dire là? Par rapport à ceux qui se livrent à cela, ça s'appelle spéculer sur les valeurs spirituelles, et c'est exactement le terme que Jésus prend, comme nous l'avons lu il y a un instant, c'est une grossière iniquité qui perd les hommes. C'est faire payer la grâce de Dieu, et on l'a appelé dans l'histoire la simonie, du nom de Simon le magicien qui voulait payer pour obtenir les dons de Dieu. La simonie. Que les églises reviennent un peu sur la parole de Dieu. Que ce soit d'une manière ou d'une autre, et voire même peut-être ceux qui professent l'évangile, avec cette fameuse doctrine de la prospérité qui fait que finalement, eh bien, on peut tout demander à Dieu parce que il n'y a qu'une chose qui compte, c'est pas tant le donateur qui est intéressant, mais le don. C'est un scandale. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Qu'est-ce que nous ayons reçu de Dieu? Et ça, je crois que c'est une honte. Qu'un commerçant fasse payer le travail qu'il accomplit, un artisan, ou quelqu'un qui bâtit une maison, qu'il fasse payer son travail, c'est normal. Mais imaginez-vous, nous n'avons rien fait. Et comment pourrions-nous avoir cette audace et donner et faire cet outrage à Dieu? Même notre propre vie ne nous appartient pas. Faire payer la grâce de Dieu. La religion de l'argent, ça existe. Les promotions personnelles dans la confession d'une foi chrétienne. Dans certains pays, c'est une promotion de devenir chrétien. l'étiquette, parce que ça élève un peu ça, ça fait rentrer dans un rang supérieur dans la société dans laquelle certains vivent. Ouais, c'est terrible. Il y a un exemple à suivre qui nous est donné, je vais bientôt finir, mais c'est Paul qui nous en parle, lui qui s'était dépouillé de tout pour servir Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 et verset 9, il est dit cette parole « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » Eh bien merci Seigneur, parce que si tu t'étais pas dépouillé de ta gloire divine, si tu n'étais pas venu accepter la volonté totale et entière de ton Père céleste, nous serions encore morts et mille fois morts. Il s'est dépouillé, il a choisi la pauvreté pour que nous puissions, nous, être des riches. Mais de quelle richesse parlons-nous? De cette richesse de l'esprit, de cette richesse de l'âme, de cette richesse de ces vérités qui sont proclamées à travers toute la Bible et qui sont le caractère de Dieu. C'est pour ça que nous sommes à l'image de Dieu, à travers l'amour, à travers la bonté, à travers la foi, la confiance, à travers toutes ces choses, la justice, la compassion, j'en passe naturellement. Ce que nous avons besoin de connaître et d'apprendre de cette leçon de Géasi, c'est que la foi ne fera jamais la promotion de notre orgueil, de nos intérêts et de notre enrichissement. C'est pour ça que parfois nous avons rencontré des chrétiens qui veulent s'enrichir à tout prix. Ils ne le savent pas, mais ce sont des gens pauvres. Et il y a quelquefois des chrétiens qui sont pauvres, mais qui sont immensément riches. Faut le dire, hein. Où sont les vraies richesses? Qu'est-ce que l'on appelle richesse? D'où viennent ces richesses? De la terre? Dans très peu de temps, il faudra les abandonner, les délaisser. À quelqu'un peut-être qui les dilapidera, même si nous avons sous nos pieds, avant de partir, un empire. Ou alors est-ce que c'est ces richesses qui viennent d'en haut et qui vont nous être multipliées parce que nous connaîtrons comme nous avons été connus. Dans l'évangile de Matthieu, il y a deux frères qui se chamaillent. C'est Jean et Jacques. Leur mère vient voir Jésus en disant « Je voudrais que quand tu arriveras dans ton règne, eh bien mes deux fils que voici, l'un soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus va leur répondre. Il va leur dire « Mais vous avez rien compris, hein ? Vous avez rien compris. » Et Jésus leur répondra « En vue de l'Église qui naîtrait, cette Église qui est aujourd'hui. » Il dit ceci, « Il n'en sera pas de même au milieu de vous, c'est-à-dire parmi les vrais croyants, les disciples de Jésus. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave, le dernier. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Pour la rançon de beaucoup, Jésus a tout donné. L'humilité, c'est la clé. Et je crois que Géasi n'avait pas cette humilité. De cœur, en tous les cas. L'humilité devant Dieu et l'humilité devant les hommes. Je tirerai cette simple conclusion. Qui s'égare dans l'amour de l'argent, dans la convoitise des biens, de l'enrichissement, d'un nom, ou d'un nom de, ou un renom, d'une popularité, ne fait qu'ouvrir son cœur à la duplicité. Parce que, il va être obligé de faire des compromissions, pas des compromis, des compromissions. C'est-à-dire de se mettre en porte-à-faux. De se mettre dans des situations qui ne sont plus des situations de justice et de vérité. Parce qu'il n'y a plus qu'un but, c'est d'atteindre le but, c'est d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire, eh bien, d'être riche, ou d'avoir la gloire, ou d'avoir le pouvoir. Donc, son cœur s'ouvre à ce moment-là à la duplicité, laquelle, tôt ou tard, l'entraînera tout simplement sur la voie de Géasi, qui est sorti devant le prophète Élisée. Il était frappé d'une lèpre blanche comme la neige, tout simplement. Je tirerai la conclusion et les derniers mots de Paul, qui nous dit cette parole. Vous allez le reconnaître, parce que je crois que c'était aussi un problème dans l'Église primitive, l'Église des premiers temps. Paul dira « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, je compte parmi eux Géasi, quelques-uns en étant possédés se sont éloignés, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il aurait pu garder sa santé, le pauvre Géasi, hein ? Ah oui, mais sa santé n'avait pas de prix, puisqu'il a préféré autre chose. Mais qu'est-ce qu'il allait faire de ses vêtements ? Qu'est-ce qu'il allait faire de ses richesses que Naaman lui a données, puisqu'il était lépreux ? Ça ne servait plus à rien. Vous savez, Jésus nous dit que le corps est plus que le vêtement. Hein. Vous connaissez, hein, ne vous inquiétez de rien. La vie, c'est plus que tout le reste. La vie n'est pas dans les choses uniquement matérielles. Il faut de l'argent pour vivre, on le sait, et on va pas dire le contraire. Mais quelle folie de finalement de perdre son âme en voulant gagner le monde entier. Que Dieu nous bénisse, nous allons simplement prier maintenant, si vous le voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole résonne, elle parle à nos cœurs, et nous croyons, Seigneur, que cette parole, en effet, elle est puissante, elle est bienveillante, elle est avertissante, elle nous met en garde. Non seulement, Seigneur, de tout ce qui est autour de nous et qui constitue, si nous ne faisons pas attention, un danger, mais nous sommes aussi mis en garde contre notre propre nature, contre les désirs de nos cœurs, contre nos faiblesses, contre la propension, Seigneur, à aller dans une voie qui n'est pas la bonne, en voulant, eh bien, atteindre ce que nous convoitons. Nous nous livrons, Seigneur, à une sorte de duplicité qui nous amène à utiliser des moyens, Seigneur, qui ne sont pas, en effet, à ta gloire et à ton honneur. Nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, dans le nom de Jésus et de nous, à être intègre devant toi, à avoir un cœur pur. Aide-nous, Seigneur, à vivre notre vie d'une manière, Seigneur, qui soit, eh bien, véritablement, Seigneur, dans la lumière et dans la clarté, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Nous ne sommes que des hommes. Nous avons nous-mêmes, Seigneur, à lutter contre, c'est vrai, la chair et le sang dans ce monde. Nous luttons, c'est vrai, nous livrons souvent des bagarres parce que, Seigneur, il y a là tout un contexte et la tentation est une réalité, Seigneur, pour tous les hommes. Mais, Seigneur, aide-nous à aller vers le haut et non pas à descendre, en effet, dans la vallée de la vision, Seigneur, qui n'en est pas une, et qui est véritablement une vision de mort, une vision de lèpre, une vision, Seigneur, de médiocrité. Parce que si nous perdons l'essentiel, si nous perdons Christ, si nous perdons, Seigneur, sa parole, si nous perdons la foi, qu'est-ce qu'il nous restera ? Seigneur, qui fera notre bonheur ? Parce que nous savons, Seigneur, que le seul bonheur que nous puissions avoir, c'est de pouvoir, eh bien, en effet, vivre dans ta présence, et vivre, Seigneur, de ta grâce, par la foi. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.